demoiselle.
Bye. Salut.
La meilleure équipe parlée à Québec. Québec. Est à Boulevard 102.1.
Are you alive?
102.1.
Are you alive?
Salut, c'est Marceau,
Jeff Fortin
et Max Larouche.
Catherine Bachand, Antonin Iacarini
et Mathias Surcotte.
Salut, c'est Denis Gravel,
Véronique Bergeron
et Audrey Pinchot.
Nous sommes
Boulevard 102.1. Maintenant, 100% parler en semaine. Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
Il est le chef du Parti conservateur du Québec. Son nom, c'est Éric Duhaime. Salut, Éric Duhaime.
Salut, Yannick.
60 minutes avec Éric Duhaime, c'est rare qu'on a la chance d'avoir ça. Puis écoute, c'est rare que je fais ça, mais je me suis mis une multitude de questions pour être sûr et certain d'aborder tous les sujets possibles qu'on peut aborder avec Éric Duhaime.
Là, pour les gens qui nous écoutent et qui ne nous voient pas, là, il est comme Guillaume Lepage. Il a des beaux cartons dans ses mains, puis là, il va lire ça tout le long de l'entrevue. Là. Fait que je vais juste vous donner une idée du visuel de quoi Yannick a l'air aujourd'hui.
La question qui tue, Éric Duhaime, t'ennuies-tu de la radio? C'était si simple faire de la radio, Éric. Qu'est-ce que t'étais faire en politique?
Écoute, je m'ennuie pas de la radio, parce que j'en fais autant, sinon plus, qu'en politique. C'est juste qu'au lieu d'arriver chez nous à 3 h de l'après-midi, j'arrive à 10, 11 h le soir. Mais le reste, ça se ressemble beaucoup. Sérieusement, je m'ennuie pas de la radio parce que j'ai la chance de continuer à parler aux Québécois. Même, j'ai peut-être plus de chance qu'avant parce que je parle pas juste à mon auditoire. Tu sais, j'ai élargi mon auditoire d'une certaine façon. Fait que je pense que c'est cet aspect-là. Si je sais pas, quand je vais prendre ma retraite, tu pourras peut-être me poser la question, mais présentement, je suis loin d'être à l'abri des médias, là.
Est-ce que, on t'appelle souvent l'animateur radio, là, mais est-ce que le fait d'avoir travaillé à la radio pendant quelques années, ça t'a nuit quand t'es allé au Parti conservateur du Québec?
Bien, je pense que d'abord, ça m'a beaucoup aidé parce que la radio m'a amené deux choses. D'abord, beaucoup de notoriété et deuxièmement, une capacité de communiquer. Ça fait que ça, je pense que c'est super important en politique d'être connu puis d'être capable de parler au monde. Mais c'est sûr que tu prends des faux pieds à radio, comme dans n'importe quelle profession. Fait que j'avais la déformation de la formation, là, c'est-à-dire que je commentais beaucoup sur des sujets en dehors de ce que le Parti conservateur propose. Puis ça nous a peut-être nuit. Mais en même temps, quand tu pars un parti à zéro, tu as besoin de faire parler de toi. Fait que des fois, de commenter sur des sujets qui n'ont pas rapport, ça permet aussi de rester dans l'actualité et de faire en sorte que les gens savent que tu existes. Donc, je pense que ça a été une transition pour moi. Je te dirais qu'elle est pas mal finie, la transition, là, mais ça a été long. C'est un long processus de tranquillement me désintoxiquer de mon rôle d'animateur de radio puis tranquillement apprivoiser de plus en plus mon rôle de chef de parti.
Mais pourtant, moi, ce que j'apprécie de toi, Éric, contrairement peut-être à d'autres politiciens un peu moins habiles en communication, c'est que tu es capable de prendre un sujet compliqué puis de le résumer rapidement. Ce qui fait en sorte que pour quelqu'un qui est un peu plus... cartésien, mettons un comptable de formation, bien, quand il entend un Éric Duhaime, il trouve que c'est trop simplifié, mais pour la population en général, on l'apprécie parce que tu prends quelque chose de compliqué puis tu le réduis à son plus simple pour que tout le monde puisse comprendre. Moi, je pense que c'est très apprécié de la part des Québécois. Et si je ne me trompe pas, il y a une journaliste de Radio-Canada, Véronique Prince, qui a dit que tu étais un des meilleurs communicateurs à l'Assemblée nationale, un des meilleurs chefs, du moins.
Oui, puis ça, là, j'ai expliqué ça d'ailleurs il y a deux semaines, je pense, dans un podcast avec Sophie Durocher. À LCN, elle me demandait, c'est un long podcast, mais elle m'a demandé, j'ai expliqué pourquoi. Puis la raison pourquoi j'essaie de toujours simplifier. Moi, j'étais un fils unique. Mes parents, c'est pas des gens qui avaient une grande scolarité, là. Mon père, le premier livre qu'il a lu, c'est le premier livre que j'ai écrit, OK? Puis il l'a fait avec ma mère à tous les jours, lire une page par jour avec elle. Ça n'enlève rien, mon père, là, c'est mon héros. Mais c'est juste pour vous dire que je viens pas d'un milieu nécessairement très aisé puis très scolarisé. Puis mes parents, ils m'ont donné tout ce qu'il y avait de meilleur. Ils ont pris toutes leurs économies. Maman était chauffeur d'autobus scolaire. Mon père était ferblantier dans la construction. Puis mes parents, c'est comme bien des parents qui nous écoutent, là, leur enfant, c'était de l'or en barre. Puis leur priorité dans la vie, c'était de s'assurer que ma vie allait être plus facile et allait être meilleure que la leur. Puis ils ont investi beaucoup dans mes études. Je me suis rendu jusqu'au doctorat. Puis c'est pas parce que mes parents m'aidaient quand je revenais le soir, là, vous comprenez. Là. Mais ils m'encourageaient, même si les matières que j'étudiais là, les dépassaient souvent. Puis... Comment je te dirais ça? Je me sentais valorisé là-dedans parce que mes parents ils m'ont toujours encouragé. Puis ils m'ont même à 5 ans ou 4 ans, ils m'ont mis dans une pré-maternelle en anglais. Mes parents ne disent pas un mot d'anglais parce que, encore une fois, ils voulaient que j'aille plus qu'eux. Puis, tu sais, quand j'en voyageais aux États-Unis, là, j'avais 7-8 ans, c'est moi qui sortais de l'auto quand on arrivait devant un motel pour aller louer là, en Virginie, là, tu comprends? Parce que j'étais le seul qui parlait anglais. Quand on arrivait au menu, c'est moi qui prenais le menu, puis qui lisait, puis qui leur disait quoi commander, puis qui parlait à la serveuse pour qu'on commande. Puis ça a été la même chose, même rapidement, là, pour tout ce qui rentrait dans la maison, les factures, les lettres, n'importe quoi, c'était moi qu'il fallait que s'en occupe, là, parce que j'étais celui qui lisait le plus, puis qui était capable, il fallait que j'écrive des réponses. Fait que j'ai eu un rôle, mes parents m'ont. Même si, tu sais, eux, ils n'avaient pas beaucoup d'éducation, puis on a vécu correct, là, mais on n'était pas d'une famille très aisée, là, mais ils m'ont donné tout ce qu'il fallait. Puis toute ma vie, ma priorité en politique, c'est-à-dire mes parents, là, c'est les plus importants d'une société. Puis il faut que je sois capable de leur parler, puis il faut qu'ils comprennent ce qui se passe, puis il faut qu'ils votent. Puis j'ai toujours été obsédé par ça. Puis il y a beaucoup de gens qui me reprochent d'être populiste. T'sais, ils disent que parce que j'utilise des mots qui ne sont pas toujours reconnus par l'Académie de la langue française, là, ben ça vient de là, je pense, mon populisme, parce que. Puis j'ai fait de la radio comme toi longtemps, Yannick. Là, quand je faisais de la radio, souvent, là, je parlais à la radio, je me fermais les yeux, puis j'imaginais mon père puis ma mère devant moi, puis je leur parlais. Parce que je voulais que ça soit accessible. Puis c'est pour ça que mes rédacteurs de discours puis mes conseillers politiques, ça arrache les cheveux de sa tête. Parce que quand ils m'arrivent avec des discours, c'est marqué là, la subsidiarité de la Confédération dans
Ça veut rien
l'asymétrique.
dire, ouais.
Non, non, c'est ça. Là, à un moment donné, je barre tout ça, là, puis j'ai oublié ça. Moi, je lis pas ça. Fait que c'est ça. Ça vient de là, mon côté un peu plus populo, puis expliquer aux gens les choses simplement.
Ouais. Il y a des sondages qu'on regarde depuis déjà quelques années qui placent le Parti conservateur du Québec dans certaines positions. C'est des sondages plus généraux à la grandeur du Québec. Là, on est autour de 10, 12, 13 %. Des sondages qui sont quand même assez intéressants pour toi. Dans certaines régions du Québec, entre autres dans la grande région de Québec, des fois tu es carrément premier ou des fois tu es deuxième. Et à d'autres, à Montréal, ben là, tu es dans les bons derniers avec Québec solidaire. Est-ce que tu as l'impression que les sondages reflètent réellement l'appui populaire ou encore ils sous-estiment, les sondages sous-estiment encore le Parti conservateur du Québec?
Au-delà de la partisanerie, je pense que ce qui caractérise l'électorat à l'heure actuelle au Québec, c'est le flottement qui existe. Les gens ne savent plus où aller. Je sens énormément d'indécision dans le choix que vont faire les Québécois le 5 octobre prochain. On avait eu l'impression depuis 2, 3 ans que le Parti québécois avait pris une avance. Mais je pense que plus les Québécois apprennent à connaître Paul Saint-Pierre Plamondon, puis plus ils voient l'échéancier référendaire approcher, moins ils sont attirés par le Parti québécois. Fait qu'on remarque une lente chute, mais progressive, constante du Parti québécois depuis à peu près un an. La CAQ, ben, il y a eu une petite bulle, là, ils sont arrivés, puis on a vu beaucoup Mme Fréchette pendant des mois, pendant les premiers mois, un peu partout. Là, elle était surexposée. Ça a eu un petit effet vers le haut, mais j'ai l'impression que c'est une bulle, ça aussi. Le Parti libéral, ça a été en dents de scie, hein. Pablo Rodriguez est arrivé, il a pris une grosse avance. On sait ce qui est arrivé, ça a dégonflé assez vite, merci. Là, est arrivé Billiard, ça a fait un peu la même chose. Ça a pris plus de temps à monter, puis ça prend un peu plus de temps à descendre, mais lui aussi, il est sur une pente descendante. Moi, ce que je remarque du vote conservateur, c'est que de tous les électeurs, c'est les électeurs les plus stables. D'abord, c'est les électeurs qui disent qu'ils ne changeront pas d'idée, le plus de loin, là, qui disent que eux, leur choix est définitif, puis ils n'ont nulle part d'autre où aller. Puis deuxièmement, le chiffre est à peu près le même. Là. Ce matin, il y a un léger qui nous met à 13, exactement où on était à l'élection. Hier, c'était un Palace qui nous mettait à 14, un peu plus haut que la dernière élection. La seule variation qu'il y a eu dans notre électorat, puis ça, je le sens, c'est que on a un peu moins d'anglophones. Les anglophones sont retournés beaucoup au Parti libéral depuis la dernière élection. Puis on est plus populaire qu'on était la dernière fois dans la région de Québec. Fait qu'on a comme moins d'anglo, plus de gens à Québec de francophones. Puis d'un point de vue très partisan, là, je vais y aller du côté mon chapeau de chef, là. C'est sûr que politiquement, c'est plus intéressant dans la mesure où c'est ça qui va nous permettre de faire notre entrée avec un gros caucus à l'Assemblée nationale le 5 octobre.
Vous avez une bonne base de jeunes aussi, là, de ce que je
Oui.
vois dans les sondages. Je trouve ça intéressant. Qu'est-ce qui fait en sorte que les 9 millions de Québécois qui nous écoutent présentement, parce que tout le monde nous écoute, qu'est-ce qui fait en sorte que ces
Évidemment.
gens-là gèrent leur propre argent comme si, ils étaient des adeptes de la droite économique, mais qui confient leurs impôts à des gouvernements qui opèrent de centre-gauche au niveau économique? Est-ce que c'est la méconnaissance? Je comprends pas. Moi, de faire attention à mon argent, je pense que c'est un principe de base. Je m'attendrais à ce que le gouvernement gère mon argent de droite économique, parce que c'est ce que je fais depuis que je suis tout jeune.
Mais l'électeur est rationnel, OK? Puis l'électeur, il en veut plus. Il veut plus de services, il veut plus de dépenses de l'État pour ses sphères d'activité, pour ses services publics. Puis il veut payer le moins possible de taxes et d'impôts. C'est rationnel, là. Quand tu y penses, là, c'est comme ça dans tout, là. On veut toujours avoir plus puis payer moins. En politique, pendant une génération et demie, ce que ça voulait dire, c'était acheter la prochaine élection puis hypothéquer la prochaine génération. Quand on enregistre les pires déficits de l'histoire du Québec, vous comprenez que ça, c'est de l'impôt reporté. Donc, c'est les jeunes qui vont devoir, dans 20, 30, 40 ans, payer des factures pour des services qu'on veut s'acheter aujourd'hui. Donc, puis, j'accuse pas une génération, là, j'accuse la classe politique d'avoir entretenu ce système-là qui fait qu'il y a des gens qui vont recevoir beaucoup plus au niveau générationnel que ce qu'ils ont payé. Puis les jeunes, pour quand tu viens de dire que les jeunes sont plus conservateurs, mais eux autres aussi sont rationnels. Puis ils commencent à comprendre que, tu sais, le service de santé, là, il coûte plus que 50 % des dépenses. C'est beaucoup les personnes plus âgées qui l'utilisent. L'augmentation des coûts à tous les ans est astronomique. Puis que eux, quand ils vont arriver, bien, probablement que l'État n'aura plus moyen de payer le même système que leurs parents puis leurs grands-parents profitent. Même chose avec la Régie des rentes du Québec. Ils réalisent qu'ils payent de plus en plus en pourcentage de leurs revenus pour un régime des rentes qui va leur en donner de moins en moins, alors que leurs parents en ont eu 6-7 fois, leurs grands-parents plutôt, 6-7 fois plus que ce qu'ils ont cotisé dans certains cas. Donc, ça, c'est un autre exemple. Les infrastructures, c'est la même chose. Je veux dire, prends toutes les champs de dépenses du gouvernement, puis tu vas voir que les jeunes sont désavantagés par une intervention de l'État trop grand. Puis je pense que ça explique qu'il y a de plus en plus de jeunes qui se disent, hey, on est en train de nous léguer des dettes avec un État en ruine. Il faut qu'on commence à payer. Plus vite ils vont commencer à payer, plus ça va être les gens qui ont profité des services qui vont payer. Puis deux, mieux l'avenir va être pour nous dans 20, 30, 40 ans. Fait que je pense que c'est, pour répondre à ta question, là, c'est ça qui fait que les électeurs, un, tout le monde est rationnel, mais deux, pourquoi les jeunes sont de plus en plus conservateurs.
Je veux pas comparer le Parti conservateur du Québec au Parti conservateur du Canada, mais tu vas comprendre par mon exemple. Il y a de ça quelques semaines, on a eu des élections au fédéral où Mark Carney a été remis en place. Les gens au Canada ont dit, ben nous, on veut un gouvernement libéral. Bon, le gouvernement libéral qui était là a été libéral minoritaire, finalement est devenu majoritaire par la force des choses. Et je me souviens d'une entrevue, je ne sais pas si c'était à Radio-Canada ou encore à RDI ou encore à LCN, mais il y a une dame qui disait « vaut mieux une dette que Pierre Poilievre ». Et la dame, oui. Là c'est dans mon bagage de préjugés, là, je suis en train de piger dans le sac, la dame devait avoir à peu près 80 ans, puis elle disait « vaut mieux une dette que Pierre Poilievre au pouvoir ». Je trouvais ça hallucinant comme réponse. Comment vous pouvez faire au Québec pour intéresser Éric Duhaime avec le Parti conservateur du Québec? Comment vous pouvez faire pour intéresser les vieux? Parce qu'en majorité, c'est eux autres qui votent.
Bien, d'abord, la dame, là, ça semble totalement incohérent puis égoïste quand tu l'entends comme la façon qu'elle le dit, là. Mais encore une fois, je te reviens au fait que c'est rationnel. C'est-à-dire qu'elle, une dette qui monte, elle se dit de toute façon, dans 20-30 ans, c'est pas moi qui vais la payer, là. On s'entend, là. Donc, la dette qui monte pour elle, ça ne l'empêche pas de dormir. Mais avoir Pierre Poilievre qui fait du ménage dans les services publics puis qui permet plus de construction, plus de bruit, plus de dynamisme, elle, ça la dérange dans son quotidien, là. Fait qu'elle, elle aime mieux qu'il y ait de la dette puis qu'à un moment donné, les jeunes payeront à un moment donné puis qu'en attendant, elle ait la paix puis qu'on ne touche pas à ses acquis. Fait que c'est comme ça. Fait que comment est-ce qu'on peut maintenant éveiller ces gens-là? Bien, je pense que d'abord, il faut faire appel au sens de la responsabilité civique de tous les êtres humains. C'est de tous les temps, on veut toujours laisser plus, léguer plus à nos enfants que ce qu'on a reçu de nos parents. Hein? C'est la première fois de l'histoire du Québec, là, en 17, 18, 19 générations qui ont foulé là, le sol là, en Amérique, là. C'est la première fois qu'une génération de Québécois va vivre plus pauvre que ses parents. Puis c'est pas une théorie, là. Il n'y a pas beaucoup de jeunes qui vont avoir les moyens de s'acheter des maisons à 700 000 piastres, là. C'est pas à part que si papa et maman t'en donnent en héritage, là, la vie va être de plus en plus difficile pour cette génération-là. L'inflation fait que même si les salaires montent, ils montent moins rapidement que le coût de la vie. Donc, ils vont subir un choc. Puis moi, je pense que comme être humain, encore une fois, si on veut léguer plus à la prochaine génération, mais il faut dire, gars, c'est pas correct, c'est pas juste, puis faisons notre part. Moi, c'est dans ce sens-là que je parle aux aînés, puis je parle aux jeunes. Dire, parlez à vos parents, parlez à vos grands-parents, il faut les convaincre, dites-leur de voter pour l'avenir. Puis, tu sais, par exemple, on parle beaucoup d'indépendance, il y a le Parti québécois qui veut beaucoup remettre ce sujet-là à l'ordre du jour, mais tu sais, ils sont nostalgiques d'un Québec, tu sais, qui était fier, qui avait une croissance, qui avait du développement, qui accueillait les Olympiques ou Expo 67, qui était... Mais si on veut retrouver cette fierté-là, la première étape, c'est d'arrêter d'appauvrir la prochaine génération. Moi, je pense que ça devrait être notre priorité numéro un. Tu le sais, moi, mon premier livre que j'ai écrit, c'est L'État contre les jeunes, là. Comment les baby boomers ont détourné le système. Je pense qu'il y a eu un détournement, il y a eu une espèce de hold-up intergénérationnel qui a été opéré par l'État québécois. Puis il est temps, de le reconnaître, puis deux, de le corriger pour s'assurer de minimiser l'impact sur la prochaine génération.
Mais on se projette dans l'avenir. Est-ce qu'un jour, un gouvernement du Parti conservateur du Québec pourrait couper dans les services aux aînés?
L'idée, ce n'est pas nécessairement de couper des services aux aînés,
Parce que j'ai
mais c'est de
l'impression que
couper
c'est
par...
ça qui leur fait peur, tu sais, une droite économique, Éric Duhaime, on va perdre nos acquis. Je ne sais pas, peut-être qu'à l'intérieur du programme du Parti conservateur du Québec, on pourrait mettre quelque chose qui favoriserait justement les personnes aînées puis qui leur
Ben,
dirait,
on
ben, c'est
en a.
quoi, on vous laissera pas crever, on va vous aider.
On en a beaucoup des mesures qui favoriseraient les aînés. C'est pour ça qu'il faut communiquer ces mesures-là. Je vais te donner deux exemples très concrets. D'abord, les soins de santé, parce que quand on vieillit, on a besoin de plus de soins de santé que quand on a 25 ans. Ben, les soins de santé au Québec, là, vous le savez, l'accès est un problème, puis de plus en plus un problème. On a beau injecter de plus en plus d'argent, le système, il réussit de moins en moins à livrer les services à temps. Il y a des listes d'attente s'allongent. Si on veut vraiment améliorer le système, ben moi, je pense qu'il faut faire comme tous les meilleurs systèmes à travers le monde, particulièrement les modèles scandinaves ou même allemands, français, même à la limite, avoir du privé, puis que les gens puissent, il y a de la concurrence, puis les gens puissent choisir. Puis rappelez aux aînés, vous allez pouvoir sortir votre carte d'assurance maladie, vous n'aurez pas besoin de payer avec votre carte de crédit ou payer de vos poches, vous allez payer avec votre carte d'assurance maladie, mais le fournisseur peut être public ou privé. Si dans le public, ils ne sont pas capables de vous offrir les soins dans des délais raisonnables, ou si le privé est capable de le faire pour moins cher, vous pourrez aller directement au privé vous faire soigner plus rapidement. Donc, je pense que ça, c'est un message qui peut être attirant pour eux. Le deuxième, on veut réduire les impôts de façon substantielle pour les aînés qui choisissent de continuer à travailler, même s'ils reçoivent leur pension, parce que présentement, ils sont souvent coupés à des taux, puis le taux de taxation d'imposition devient tellement élevé parce qu'on parle de la strate supérieure, le palier d'imposition le plus élevé, qu'il en reste moins que la moitié que ce qu'ils gagnent. Donc, ils ont l'impression que ça ne vaut plus la peine de continuer de travailler, même à temps partiel, 10, 15, 20 heures. Puis ça, là, c'est bon pour l'économie parce que ça génère plus d'emplois, puis il y a des gens qui travaillent, tout ça. Puis ça n'a pas les conséquences fâcheuses de l'immigration. Tu sais, tu n'as pas de pénurie de logement, tu n'as pas de pénurie de services publics, de santé, parce que déjà, ils sont déjà ici, là, donc tu n'as pas besoin d'avoir du nouveau monde sur le territoire. Puis en plus, ça augmente probablement leur espérance de vie et leur santé. Parce qu'une personne qui se garde active, qui continue à être stimulée, qui est un mentor dans son ancien milieu de travail, se sent valorisée, socialise. Hein. La première cause de la mort, on l'oublie souvent, là, mais parler des médecins, c'est pas le cancer, c'est pas les crises de cœur.
C'est l'isolement.
C'est la solitude. Donc, je pense que ça aura un effet bénéfique. Puis au Québec, on prend nos retraites plus tôt qu'ailleurs. Hein? On travaille 2 ans de moins. On prend notre retraite 2 ans plus tôt, par exemple, qu'un Américain, puis 1 an plus tôt qu'un Canadien anglais.
Mais c'est en
Donc,
raison de l'omniprésence des syndicats, ça, qui fait en sorte qu'après, dans la cinquantaine, mais on peut encore prendre une retraite, alors que pour nous autres, en tout cas, ma génération à moi, Liberté 55, ça n'a jamais existé.
Ça n'existe plus, là, non?
Non.
Il y a 2 raisons, essentiellement. C'est l'aspect syndical. Hein? Le Québec est plus syndiqué qu'ailleurs. Les syndicats poussent pour la retraite rapide. D'accélérer. Deuxièmement, les taux d'imposition, étant donné qu'ils sont plus élevés ici, l'incitatif à continuer de travailler est plus faible. Donc, il y a 2 phénomènes qui expliquent qu'au Québec, on prend nos retraites plus tôt. Mais moi, je pense que ce n'est pas une bonne nouvelle. Il faut essayer de repousser ça. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour l'individu. Je suis pas en train de dire que tout le monde doit prendre sa retraite le plus tard possible. Tu y vas à ton rythme, là, puis chacun le fait. Mais le faire en phasing out, c'est-à-dire, tu sais, graduellement réduire plutôt que de couper drastiquement, ça, c'est prouvé, c'est démontré que ça a un effet bénéfique. Donc, est-ce qu'on peut faire ça, puis qu'au niveau fiscal, on accompagne le travailleur pour qu'il y ait un avantage à le faire graduellement plutôt que de couper sec d'un coup.
On freine un peu l'effort, là, puis j'en parlais avec Gabardi, qui est un député fédéral. Oui. Si on pouvait permettre aux personnes âgées qui ont payé leur large portion d'impôts là, dans leur vie, si on pouvait leur permettre, s'ils désirent de travailler jusqu'à 80-85 ans, on les éloigne des hôpitaux, là, au niveau cognitif, au niveau physique. Les gens, ils ont un cercle social, ils ont un cercle d'amis, continuent de bouger. On les éloigne des hôpitaux, là. C'est pas vers ça. Ben, je comprends que les partis conservateurs du Québec voudraient s'en aller vers ça, mais les gouvernements en place devraient se pencher là-dessus puis travailler en amont pour nos aînés puis cesser de freiner ces gens-là à vouloir travailler. Ça n'a pas de bon sens. C'est antiproductif.
Il faut les inciter à continuer à travailler. Puis j'ajouterais même, je suis sûr que Gabardi serait d'accord avec moi, il faut aussi les faire bouger. Il faut, autant les jeunes que les aînés, tout le monde dans la société, là, comme être humain, là, puis on ne le dit jamais assez, là, mais des saines habitudes de vie, ça prolonge votre vie, puis surtout, ça améliore la qualité de votre vie. Et les aînés au Québec ne bougent pas suffisamment. Donc, il faut donner aussi des crédits fiscaux. Il faut se favoriser le fait qu'ils puissent s'adonner à des activités physiques par nos infrastructures sportives, par les déductions pour les abonnements à des gyms ou à des équipes sportives. Il faut remettre le Québec à bouger. Puis c'est vrai pour les jeunes également. On a des jeunes qui sont de plus en plus sédentaires, de plus en plus devant des écrans. Puis c'est vrai pour les aînés aussi, là. Il y en a des grands-mères là, qui jouent au Candy Crush du matin au soir, là. Fait que il faut qu'on donne un incitatif à faire bouger le monde. Puis tu sais, je regarde plein de monde autour de nous, là, vous en connaissez tous, là. Regardez la différence entre quelqu'un qui se tient actif physiquement, qui continue à s'adonner à pratiquer du sport, versus celui qui devient totalement sédentaire, puis qui passe sa journée devant les écrans. Puis vous allez voir que l'espérance de vie est réduite, mais surtout sa qualité de vie est pas la même.
Si j'avais à demander à Éric Duhaime la mesure phare du programme du Parti conservateur du Québec qui pourrait, tiens, transformer le Québec, c'est quoi la mesure phare qui détermine le Parti conservateur du Québec?
Je suis toujours que c'est les 3D. Et on est, c'est pas, ça passe pas à part que les trois dimensions, puis c'est pas des lunettes 3D pour voir un film bizarre. Là. C'est les 3D, là, c'est le dégraissage. C'est-à-dire qu'on veut couper considérablement la taille de l'État, hein, réduire d'au moins 20 000 fonctionnaires à la fonction publique. On veut abolir les subventions aux entreprises, notamment le Fonds de développement économique. On veut abolir le Fonds vert, abolir la taxe carbone. On veut vraiment réduire au maximum. Que le gouvernement se serre la ceinture pour laisser plus d'argent dans les poches du monde. Ça, je pense que ce premier dé-là, là, je comprenais bien. Le deuxième dé, c'est la déréglementation. Au Québec, on est surréglementé. On a des règlements pour tout. Ça explique un paquet de choses. Ça explique pourquoi nos agriculteurs sont moins productifs qu'ailleurs. Ça explique pourquoi on a une crise du logement. Ça explique pourquoi les coûts de construction sont beaucoup plus élevés que partout ailleurs. J'ai sorti la semaine passée, j'étais à la Chambre de commerce de Montréal, j'ai fait sortir les chiffres sur le nombre de lois et règlements qui nous régissent au Québec versus l'Alberta, qui est le modèle, qui est le meilleur modèle tant qu'à moi au Canada, là, sur cet enjeu-là. En Alberta, ils ont 60 000 lois et règlements. Au Québec, on en a 150 000. Okay? On a 2,5 fois plus de lois et de règlements qui empêchent nos vies à tous les niveaux. D'ailleurs, on a parti un site, là, finilapaperasse.com. Vous pouvez y aller. Là, tout le monde peut aller dénoncer les règlements qui vous empêchent la vie. Puis, c'est pas normal. Puis ça a un coût énorme. Puis ça a même une incidence sur le bonheur du monde. Quand c'est rendu qu'au Québec, en vertu de la loi 25, un enseignant n'a pas le droit de mettre la liste de ses élèves avec leur date de naissance pour célébrer leur anniversaire, puis que ça devient illégal de mettre ça sur un mur. C'est pourquoi qu'on empêche les enfants de faire. Des lois et des règlements là, inutiles, là, tu comprends, Yannick, qu'on pourrait pas en parler pendant 2 jours, là, non-stop. Là. Fait que, mais il faut, nous, ce qu'on veut, c'est s'engager à en réduire de 30%. Fait que c'est le deuxième dé. Puis le troisième dé, c'est la décentralisation. Comme conservateur, on veut toujours que le pouvoir soit le plus proche de l'individu possible. Puis pour ça, il faut que les municipalités, il faut que les MRC, il faut que les individus aient davantage d'autonomie par rapport au gouvernement du Québec. C'est, moi, je suis un autonomiste par rapport à Ottawa. Je viens d'écrire un livre, là, Destination Autonomie, justement, pour accroître le pouvoir québécois à l'intérieur du Canada. Mais il faut qu'à l'intérieur du Québec, les municipalités, les individus augmentent leur pouvoir aussi par rapport au gouvernement du Québec. Puis ça fait que la décentralisation, c'est plus qu'un slogan, mais ça va être c'est une philosophie. Fait que c'est nos 3D. Je pense que si tu penses au Parti conservateur, là, pense aux 3D. Si tu veux le résumer en un mot, prends un autre D, prends du M, là. Mais c'est grosso modo, c'est ça notre branding. Je pense que ça va. Vous allez beaucoup m'entendre de parler de ça. Puis ces 3D-là, qu'est-ce que ça vous rapporte pour vous concrètement dans vos vies? Bien, le dégraissage, ça va vous enrichir. Parce que en réduisant ses dépenses, le gouvernement en serrant la ceinture, bien, il va vous laisser plus d'argent dans vos poches. La déréglementation, pour moi, ça va augmenter votre liberté. C'est-à-dire que le gouvernement va moins vous encadrer, vous allez plus pouvoir faire ce que vous voulez. Et finalement, la décentralisation, ce que ça va faire, c'est que ça va rapprocher le pouvoir de vous. Donc, vous allez avoir l'impression, pas l'impression, mais la réalité aussi, que vous avez plus de pouvoir sur ce qui dit que l'avenir, puis le gouvernement va être moins omniprésent dans vos vies.
Éric Duhaime, hier, il y avait un exemple justement de réglementation puis de permis à quel point les fonctionnaires sont tout mêlés. Souviens-toi du petit wallaby qu'on cherchait depuis quelques jours qui finalement s'est avéré être un kangourou roux.
Oui.
Les premiers intervenants qui sont arrivés pour tenter de sauver ce fameux kangourou en liberté se sont butés à des fonctionnaires qui disaient « Ben, vous n'avez pas le droit de capturer le kangourou ». Même s'ils menacent d'aller sur l'autoroute puis de créer le bordel, parce que vous n'avez pas le permis. Et là, la dame de dire, mais qui a un permis au Québec pour la chasse aux kangourous, là, alors que les kangourous, techniquement, on n'en a pas dans son habitat naturel ici au Québec. Et la fonctionnaire de dire, ben ça devrait être la personne qui l'avait au départ. Mais cette personne-là, c'est un contrebandier, là. Il n'avait pas le droit d'avoir de kangourous. Fait que finalement, on a laissé faire les choses et après 6 jours ou 5 jours, on a réussi à capturer ce dit kangourou. Mais imagine-toi tous les détails, toutes les dédales qu'on a à poser des questions aux fonctionnaires qui sont un peu mêlés dans leurs affaires. Il ne peut pas avoir d'amende prévue si tu captures un kangourou. Il n'y a pas de permis de capture de kangourou. Les gens sont tout mêlés. Puis là-dessus, je suis d'accord avec toi. Il y a beaucoup de lois et de règlements qui ne servent absolument à rien au Québec. Et quand tu me dis qu'en Alberta, il y en a 60 000 règlements ou lois versus 160 000 ici ou 150 000 ici au Québec, je trouve ça assez hallucinant. Faudrait faire le ménage aussi là-dedans. C'est quoi la grande différence entre la vision du Parti conservateur du Québec pour le Québec versus les autres partis?
Bien, sur l'ensemble des enjeux?
Sur l'ensemble des enjeux. Parce qu'Éric Duhaime, ce n'est pas, ben, en tout cas, actuellement, ce n'est pas un souverainiste de ce qu'on comprend. Tu es un
Non.
autonomiste.
Oui. Bien, l'autonomie, c'est quoi la différence entre l'autonomie puis les fédéralistes et les souverainistes, mettons? On va commencer par là. Bien, d'abord, c'est sûr que le Parti québécois veut tenir un troisième référendum. Nous, on pense que ce n'est pas une bonne idée. D'abord, les Québécois n'en veulent pas. Deuxièmement, on en a fait deux en 80 puis en 95. Ça s'est soldé par des échecs, pas juste pour le camp du oui, mais pour le Québec. Parce que les deux fois, Ottawa a profité de la faiblesse du Québec pour envahir encore plus nos champs de compétences. Et pour nous, ça, c'est inacceptable. Pour moi, je suis un Québécois d'abord, je suis un francophone. Pour moi, le pouvoir québécois, c'est ça qui est essentiel. Le Canada, historiquement, ça a été un compromis. On est à l'intérieur d'un pays où il y a deux ordres de gouvernement. Qui devraient être, selon notre Constitution, être souverains tous les deux dans leur champ de compétences. Il y a les champs de compétences fédéraux, il y a les champs de compétences provinciaux, et chaque gouvernement est égal un à l'autre, mais dans ses juridictions à lui. Le problème, ça, c'est les fédéralistes libéraux à Ottawa puis à Québec. Eux, ils pensent que le gouvernement du fédéral doit dominer le gouvernement du Québec, doit dominer les gouvernements des provinces. Et c'est pour ça qu'ils interfèrent, ils s'ingèrent dans les compétences du Québec. Fait qu'un bel exemple récent, c'est l'entente que Mme Fréchette est allée signer à Longueuil avec M. Carney de 10 milliards de dollars où le fédéral envoie 10 milliards de dollars au gouvernement du Québec. D'abord, si le gouvernement fédéral envoie 10 milliards au gouvernement du Québec, c'est parce qu'il y a trop d'argent. Il nous a trop taxés. À base, là, c'est ça que ça veut dire, là, parce que si dans tes propres compétences, tu n'es pas capable de dépenser ton argent, puis tu es capable de faire des chèques et envoyer ça à un autre gouvernement, c'est parce que tu taxes trop ta population. Deuxièmement, quand il a signé l'entente, il y a des conditions. Donc, le fédéral va dire, OK, vous pouvez faire tel, je vais vous donner de l'argent, mais il faut que vous en mettiez dans le transport en commun. Je m'excuse, mais ce n'est pas le rôle du fédéral de se mêler des transports à l'intérieur du Québec. Si on veut mettre de l'argent dans le transport en commun, on le mettra dans le transport en commun. Si on veut le mettre des nouvelles routes, on le mettra des nouvelles routes. Puis si on veut le mettre dans le système de santé, on le mettra dans le système de santé. Ça devrait être au Québec, aux Québécois ou à l'Assemblée nationale, les compétences des Québécois du Québec de décider où va cet argent-là. Fait que c'est un peu ça la vision autonomiste. C'est beaucoup, évidemment, il y a d'autres provinces au Canada qui sont de plus en plus autonomistes. Puis l'Alberta, encore une fois, est un bel exemple, mais la Saskatchewan aussi, où ils ont adopté des lois sur l'autonomie et où ils tiennent tête à Ottawa, où ils contestent systématiquement devant les tribunaux les ingérences du fédéral maintenant. Puis je pense qu'il faut revenir à l'esprit des pères de la Confédération au Canada. Il faut revenir à ce que pourquoi le Canada a été fondé. Puis si les Québécois ont adhéré au Canada, c'est parce que on avait le choix entre ça puis les Américains, puis on a pris historiquement la bonne décision en passant, là. Si on s'était joint aux États-Unis dès le départ, les probabilités qu'on parle encore français aujourd'hui sont probablement nulles. On aurait fait partie du melting pot américain, puis le Québec, en tout cas notre identité, notre langue, notre culture, se serait diluée. Donc, le Canada, d'une certaine façon, a réussi à nous faire non seulement survivre, mais même croître, là, puis on a prospéré à l'intérieur de la Confédération canadienne, mais il faut être très vigilant pour pas que ce système-là devienne un gouvernement fédéral dominateur. Et moi, ce que j'appelle le fédéralisme toxique, là, des libéraux actuels à Ottawa. Fait qu'être autonomiste, c'est ça. C'est vouloir accroître le pouvoir du Québec, là, à l'intérieur du Canada.
Éric Duhaime, chef du Parti conservateur du Québec, ça semble fonctionner pour toi et ton équipe dans les régions. Par contre, dans le secteur de Montréal, ça ne semble pas fonctionner. Est-ce qu'il y a des préjugés à l'égard du Parti conservateur du Québec dans le secteur de Montréal qu'il n'y a pas à Québec ou encore en région? Pourquoi vous êtes si populaire en région puis si peu à Montréal? Est-ce que c'est en raison de la forte concentration des médias qui sont à Montréal, qui sont plus de centre-gauche?
C'est sûr que ça explique en grande partie la différence, là. Je pense que les médias montréalais nous donnent moins d'espace. C'est oublier même les biais idéologiques, là. Des émissions comme où je suis invité présentement à Montréal, ça arrive beaucoup moins souvent, disons-le comme ça, là. C'est sûr qu'on a moins de présence. Puis il y a un autre facteur aussi, il faut
Mais
le
la
dire.
job d'un média, c'est pas d'être neutre puis de parler des bons coups puis des mauvais coups de tous les partis. Ça devrait pas être ça. Quand on est honnête avec notre auditoire, que ce soit nos téléspectateurs, notre auditoire, c'est pas de recevoir des gens d'un peu partout puis dire à nos auditeurs, ben écoutez, nous on pose les questions que vous poseriez dans votre voiture ou encore à la maison, puis vivez avec les réponses des gens qui font partie de notre paysage politique.
Ça devrait être ça, mais tantôt, tu sais, je rigolais, puis je t'ai dit que tu étais comme Guillaume Lepage qui lit ses cartons, là. Mais parlons-en de Guillaume Lepage. Je vais donner un exemple très concret parce que c'est une des émissions d'affaires publiques les plus populaires au Québec, là. À Montréal, dans les 8 derniers mois, ils ont invité 5 porte-paroles de Québec solidaire. Okay? Ils en ont invité 0 du Parti conservateur. On est 2 fois plus populaire qu'eux dans les sondages, là, présentement, à la grandeur du Québec, là. Leur émission s'appelle Tout le monde en parle. Moi, pendant ces mois-là, là, j'ai accueilli une ministre de la CAQ qui a démissionné et qui est devenue la première députée conservatrice à l'Assemblée nationale. Puis tout le monde en a parlé, là. Tu sais, ça a fait quand même jaser, là. C'est pas tous les jours que ça arrive qu'un ministre quitte et s'en va dans un parti qui n'avait pas de député avant qu'il arrive, là. Ça arrive. C'est la seule fois que c'est arrivé dans le mandat, là. Ben, nous, elle n'a pas été invitée. Mais Vincent Marissal, qui a été mis dehors ou qui est parti, on ne le sait pas trop, là, mais qui voulait aller au PQ, puis ça n'a pas marché, lui, il a été invité quand c'est arrivé, tu comprends? Juba Gazal a lancé un livre. Tu ne le savais peut-être pas, moi non plus, je ne le savais pas avant de lancer le mien, je l'ai su après. Elle était invitée à Tout le monde en parle. Moi, j'ai lancé un livre qui a fait pas mal plus parler. Il y a même eu une campagne de boycott, rappelle-toi, ici à Québec, à la librairie La Liberté. Ben moi, je n'ai pas été invité quand j'ai lancé mon livre. Même si je les ai appelés, j'ai sollicité des grandes entrevues, autant pour Maïté que pour moi. Mais ils ont invité aussi Françoise David. Ils ont invité Gabriel Nadeau-Dubois qui a lancé une étude sur l'éducation dont très peu de gens ont parlé. Ils ont invité Sol Zanetti. C'est le biais médiatique, ça, c'est un exemple, là, très, très, très concret, là. Vous ne pouvez pas me dire que j'ai tort, là. Moi, je n'ai jamais été invité depuis 4 ans, tout le monde en parle. La dernière fois qu'ils m'ont invité, c'était aux élections parce qu'il n'y avait pas le choix, parce que tous les chefs devaient être là, là. Mais dans les 8 derniers mois, ils ont invité 5 porte-paroles de Québec solidaire. Puis même si nous autres, tout le monde en parle du Parti conservateur dans une semaine, on n'est pas autour de la table, là, le dimanche soir à grand-messe de Guillaume Lepage.
Mais c'est quoi les préjugés que les gens à Montréal ont envers le Parti conservateur du Québec?
Ben,
Je veux dire, le background du Parti conservateur du Québec est assez mince, là. Vous n'avez jamais eu le pouvoir, là.
non, mais c'est, je pense que c'est un biais beaucoup plus à gauche. Puis tu sais, on n'est pas tout seul au Québec à vivre ça, hein. Partout, là, dans les métropoles, là, les grandes capitales du monde aussi, veut, veut pas, la population est beaucoup plus urbaine. Celle qui travaille dans les médias est beaucoup plus urbaine. Elle est plus scolarisée, mais particulièrement dans les sciences sociales, avec les mêmes profs, les mêmes départements, les mêmes biais idéologiques. Donc, ils ont comme un pattern, tu comprends? Puis, tu sais, quand tu rentres dans une salle de nouvelles à la presse, bien, ils viennent tous des mêmes universités, des mêmes quartiers, des mêmes backgrounds. D'ailleurs, quand tu prends le bottin là, des journalistes là, de la Fédération québécoise des journalistes du Québec, tu te rends compte que ces deux, trois codes postaux occupent plus que 50 % du nombre de journalistes au Québec. C'est hallucinant. Ils sont pactés en quelques coins de rue. Donc, c'est comme un microcosme qui est très, très bruyant. Puis à Montréal, bien, il y a beaucoup d'écho. Dans les régions, il y a un contrepoids. Il y a des médias comme le vôtre, mais comme plein d'autres. Puis il y a aussi le fait que quand tu habites en région, tu es plus autonome, dans le sens où tu dépends moins du gouvernement. Puis tu es plus habitué de te prendre en main, puis de t'occuper de tes affaires toi-même. Tu n'attends pas après le gouvernement pour rien. Donc ça aussi, ça développe un réflexe qui est différent. Tu te promènes en auto, tu ne te promènes pas en métro. Évidemment, tu n'as pas le choix, il n'y en a pas de métro chez vous. Fait que tout ça fait que, au bout du compte, tu as une philosophie, tu as une idéologie qui, à la base, est plus conservatrice. Puis ça, c'est vrai partout en Occident, là, pas juste au Québec, là. C'est un phénomène que on observe partout. Plus tu habites dans un centre urbanisé, moins tu es à droite, puis plus tu habites en région, plus tu l'es.
J'aime beaucoup cette explication-là. Est-ce que pour ce qui est des prochains mois, parce qu'on, ben, des prochaines semaines, tiens, parce qu'on s'en va en élection, vous allez vous concentrer sur les endroits où il y a plus de réception en ce qui a trait à votre programme, plutôt que Montréal?
J'espère. Je suis content que tu me poses la question, puis je le souhaite ardemment, mais je ne sais pas si ça va être possible parce que, écoute, là, on a reçu à date 6-7 invitations pour des grands événements incontournables de la campagne électorale, dont 4 débats des chefs. T'sais, je ne peux pas aller au débat des chefs, là, au contraire. C'était une de nos premières revendications. Aujourd'hui, plus personne, on oublie ça comme conservateur, là. Mais il y a 4 ans, la question, c'était, va-t-il être invité au débat des chefs? Aujourd'hui, il n'y a plus personne, personne. Ça démontre la progression, comment on s'est institutionnalisé très rapidement dans le paysage politique québécois. Donc, on a reçu des invitations déjà pour tous les débats, parce que cette année, Bell va en faire un aussi là, avec Crave puis Nouveau. Mais puis même les Anglos veulent en faire un avec CBC. Donc, tous ces débats-là, pour l'instant, sont tous planifiés à Montréal. Même chose pour les grandes entrevues, même chose pour Tout le monde en parle, même chose pour l'Union des municipalités du Québec. Donc, il y a un paquet de grands rassemblements qui vont avoir lieu à Montréal. Moi, j'appelle ça la montréalisation des campagnes électorales, là. On est rendu qu'on est obligé de passer de plus en plus de temps à Montréal pendant la campagne. Parce que faut. Vous comprenez, là, les gens qui ont jamais fait de campagne, puis c'est normal, là, de l'autre côté, comme organisateur ou comme candidat, quand tu es dans une élection, mettons un débat des chefs, mais c'est pas juste le soir qu'il faut que tu sois à Montréal. Il faut que tu sois pendant au moins 2 jours, parce qu'il faut que tu arrives avant, il faut que tu te prépares, tu vas même visiter les studios, il y a toutes sortes d'affaires techniques aussi. Puis tu veux te. Comme chef, tu veux aussi un peu t'isoler, tu as besoin d'être dans ta bulle, tu veux pas être distrait par les nouvelles du jour. Donc, chaque débat, c'est 2, 3 jours. Fait que ça fait en sorte que plus que la moitié de la campagne, il faudrait que je la passe sur l'île de Montréal, alors que nos votes ne sont pas là du tout, ils sont dans les régions. Fait que c'est pour ça que j'ai réclamé qu'un débat, au moins un débat, soit tenu à Québec. Les 3 autres partis d'opposition, je les remercie, là, le Parti libéral, Québec solidaire, le Parti québécois, se sont joints à nous pour dire que ça prenait au moins un débat à Québec. Puis Mme Fréchette, elle hésite encore.
Mais il n'y
La
avait
CAQ,
pas
on ne
une
sait pas
loi
si.
qui avait été mise en place pour privilégier la
Oui.
capitale nationale pour les grands événements?
C'est la loi sur le statut de la ville de Québec comme capitale nationale. Puis effectivement, ça disait que les grands événements politiques devaient se tenir à Québec. Il me semble qu'un débat des chefs, il n'y a pas plus grand événement politique aux 4 ans que celui-là, là. Malheureusement, ça ne semble pas préoccuper beaucoup de monde. Je vais interpeller parce que là, si la première ministre ne bouge pas, je veux que le maire de Québec aussi se lève debout, là. Il est quand même maire de la capitale nationale, là. Ça serait important que même à Québec, les gens se lèvent debout parce que c'est sûr que ça ne change rien, là. Quand vous le regardez dans votre salon, oui, vous voyez que c'est le Parlement, là, le débat serait dans le Parlement ou l'autre, il se fait dans les studios de télé de Montréal. Ça ne change pas grand-chose pour vous, mais ça change le fait que. On est une capitale nationale, puis ça veut dire quelque chose que Québec soit une capitale nationale, puis que le Québec, c'est pas juste Montréal. C'est pas vrai que les chefs sont obligés de passer. Moi, là, je veux faire ma campagne dans un autobus qui se promène dans les rangs, dans les villages au Québec. Pas faire ma campagne électorale dans un métro qui se promène d'une station à l'autre. Moi, Bellechasse, là, c'est pas station de métro Bellechasse, c'est la circonscription de Bellechasse où je me présente, comprenez-vous? Fait que c'est pas, il faut, c'est important qu'on sorte. les élections de Montréal. On se plaint souvent que Montréal, que le reste du Québec n'a pas, comment je dirais ça, de poids politique important, parce qu'il y a beaucoup de ministres qui viennent de Montréal, puis les sujets sont de Montréal, puis la montréalisation des ondes, la montréalisation de la politique, ben ça commence par le débat des chefs. Puis en tout cas, je pense que celle-là, on va peut-être la gagner, là. On a trois partis de notre côté, puis je vais continuer à me battre tant qu'il n'y aura pas la confirmation que le débat des chefs va être à Québec, là.
Écoute, c'est peut-être mon bagage de préjugés puis ma connaissance de la ville de Québec, mais j'ai pas l'impression que le maire Bruno Marchand sera de ton côté. Il va militer à tes côtés parce que la coalition Avenir Québec le sert très bien actuellement avec ses bébelles. On a perdu à Québec, on a perdu le... On avait des défenseurs de Québec, comme on avait des défenseurs de Montréal, mais des défenseurs de Québec en Agnès Maltais, qui est une politicienne avec qui je ne suis pas capable de m'entendre, mais c'est une bonne personne qui faisait de la politique pour les bonnes raisons. On avait un Gérard Deltel aussi qui défendait Québec constamment. On avait un Sam Hamad qui défendait Québec. Il y avait le maire Labeaume qui terrorisait tous les politiciens au Canada tellement il était fort et qui défendait Québec. Le maire Marchand semble être un autre style et j'ai pas l'impression qu'il va se battre pour avoir un débat à Québec.
Mais c'est pas juste le débat, là, Yannick, comprends-moi. Je vais te donner d'autres exemples, là. François Legault, il y a 2 ans, il a dit, je vais rencontrer tous les chefs des autres partis, OK? Fait qu'il m'a invité, puis il a invité les 3 autres. Mais ben, Christy, c'est le premier du Québec. Tu rencontres un chef d'un autre parti. Mais ben, toutes les rencontres, il nous a fait ça tout à Montréal. Il nous a tous convoqués dans ses bureaux de Montréal. C'est pas normal. C'est pas normal que c'est à Montréal que les chefs de parti sont obligés de se rencontrer. Comme c'est pas normal qu'il y a 2 semaines, on annonce le plus gros investissement de l'histoire de la ville de Québec. OK? C'est le tramway, puis je compte le tramway, là, puis c'est pas une question d'être pour ou contre, là. Mais ils ont annoncé ça à Longueuil, Calthar. Puis le maire qui était à côté de la première ministre du Québec puis du premier ministre du Canada, c'était pas Bruno Marchand, c'était la mairesse de Longueuil.
Ouais.
C'était Kathleen Fournier qui était là.
Et
ça a-tu du bon sens?
Et n'a pas eu le droit de prendre la parole pendant cette conférence de presse-là,
non.
Ce qu'on a trouvé hallucinant un peu.
Bruno Marchand, puis il a rien dit parce qu'il était content parce qu'il recevait de l'argent pour son tramway.
Exact.
Fait que il s'est fermé à boîte, mais un maire de Québec, il aurait fallu qu'il passe par-dessus ça puis qu'il batte pour que la capitale nationale reste la capitale nationale. Quand Christine Fréchette rencontre le premier ministre du Canada, elle peut aller le visiter à Ottawa comme elle l'a fait après son élection, mais normalement, quand elle le reçoit au Québec, ça devrait être à Québec dans son bureau à l'Assemblée nationale, pas à Longueuil. Puis surtout pas pour annoncer du financement pour le tramway de Québec. Voyons donc.
Qu'est-ce qui fait qu'au Québec, on n'est pas capable de créer de la richesse? Du moins, c'est une impression que moi j'ai, là. Qu'est-ce qui fait que à chaque fois qu'un politicien dit « ça nous prendrait plus d'argent », plutôt que de parler d'exploitation de richesses, de nos richesses naturelles, il parle plus peut-être d'augmenter les impôts, de couper à certains endroits. Pourquoi on ne voit pas plus grand? Dans le programme du Parti conservateur du Québec, est-ce qu'il y en a de l'exploration de nos ressources naturelles pour qu'on puisse un jour faire de l'argent avec ça?
Oui. D'abord, pour répondre à la première partie de ta question, là, puis elle est importante, là, c'est pas une perception que tu as qu'au Québec, on est contre la création de richesses. Le pourcentage de création de richesses au Québec n'arrête pas de ratatiner. Il y a eu une époque où c'était le contraire. Hein? Je ne veux pas parler de l'Union nationale, là, mais à l'époque de Maurice Duplessis, la majorité des investissements privés au Canada, même si on était juste le quart de la population ou un peu plus, là, bien, la moitié des investissements privés au Canada se faisait au Québec. On était ouvert à faire des affaires. On voyait grand à cette époque-là. Puis là, tranquillement, ça s'est ratatiné, 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 jusqu'à en devenir caricatural aujourd'hui, où on est non seulement contre l'exploitation de nos ressources, mais on est même rendu, là, c'est fou, là, pensez-y. Le Québec avait donné des droits d'exploration à des compagnies gazières et pétrolières au Québec historiquement. Là, ils ont voté des lois. François Legault puis la CAQ, là, puis Christine Fréchette faisait partie du gouvernement-là, là. Ils ont voté des lois pour empêcher toute forme d'exploration et d'exploitation au Québec. Les compagnies qui avaient des droits poursuivent le Québec aujourd'hui pour plus de 40 milliards. Okay? Et là, on est devant des tribunaux américains puis internationaux et on risque de payer des milliards parce qu'on refuse d'exploiter notre richesse. On va être les... Non seulement on ne s'enrichit pas parce qu'on a la chance d'avoir la richesse que n'importe quel autre pays dans le monde rêverait d'avoir en dessous de ses pieds, puis on est les seuls qui avons une réserve aussi importante puis qui ne fait rien avec elle, avec la réserve de gaz naturel qu'on a en dessous des pieds. Mais en plus, on va payer parce qu'on empêche les compagnies à qui on avait donné historiquement des droits d'exploiter. Donc, on va être les nounous, les dindons de la farce. Fait que ça, c'est fou raide, là. Par un gouvernement, je vous rappelle, qui a été élu en disant que non seulement on allait l'exploiter, nos ressources, notre gaz naturel, mais qu'il allait faire du Québec la Norvège d'Amérique, c'est-à-dire le pays qui exploite extraordinairement bien ses hydrocarbures. Donc, fait que ça, c'est un exemple. Puis l'autre exemple, c'est ce que je te disais tantôt, là, toute la réglementation, là. Toutes ces formes de réglementation-là, là, puis de taxation trop élevée, qu'est-ce que ça fait comme impact? Mais ça fait que les gens votent avec leurs pieds, puis les entreprises aussi. Le mois passé, j'étais à Shawinigan, puis j'étais avec le président d'une belle entreprise, puis il m'a annoncé que son entreprise allait continuer à vivre à Shawinigan, là, mais il a déménagé son siège social à Calgary. Puis pourquoi il a fait ça? Mais parce que son taux d'imposition est beaucoup plus bas. Puis que il était plus capable de concurrencer contre ceux et celles contre qui il doit se battre là, dans son marché. Puis la façon qu'il a trouvée, ben, c'est de mettre son siège social, c'est de se trouver un bureau à Calgary, de mettre une adjointe administrative là-bas, puis deux, trois employés, puis d'ouvrir son siège social en Alberta, parce que le climat fiscal est tellement avantageux que ça lui permet de survivre comme entreprise, puis de garder ses jobs au Québec, à Shawinigan. Puis ça, c'est un exemple, là, de comment on est en train de tuer notre entreprise. Puis lui, on est chanceux, il a décidé de garder son usine ouverte au Québec. Il n'aurait pas à fermer, puis la déménager à Lewiston, en Alberta, puis il aurait probablement fait encore plus d'argent s'il avait pris cette décision-là, là.
Juste
Mais tout ça pour te
juste les
dire.
redevances, tu sais, juste des redevances sur l'eau là, pour ce qui est des embouteilleurs. Là. Ceux qui prennent l'eau, ils mettent ça dans les bouteilles, puis ils nous vendent ça à 3$ au dépanneur, Eric. Écoute, c'est 509 $ par million de litres. Je veux dire, on donne notre eau au Québec à ces embouteilleurs-là. Souvent, c'est des entreprises de l'extérieur qui viennent puiser notre eau. Il y aurait moyen d'aller chercher de l'argent à cet endroit-là. Ça n'a pas de bon sens qu'on donne cette eau-là, alors qu'on nous dit, hey, faites attention à votre utilisation de l'eau, là. Quand vous prenez votre douche trop longtemps, ça coûte trop cher. Puis là, traiter cette eau-là, c'est épouvantable. Puis on va manquer d'eau. Puis là, si vous voulez que vos petits-enfants, ça c'est Monique Jérôme Forget qui avait dit ça, si vous voulez que vos petits-enfants aient accès à l'eau dans leur demeure, ben là, il faut faire attention. Puis oui, il faut payer plus cher.
D'abord, c'est une bonne question là, que tu parles des redevances, puis je suis content que tu soulèves ça. Il faut que les redevances, effectivement, non seulement qu'il y en ait, mais que les gens voient l'impact. C'est pour ça que nous autres, on dit on veut qu'il y ait des redevances, puis on veut que les redevances restent dans la région qui exploite ces ressources. Pour donner justement, tu sais qu'on parle souvent d'acceptabilité sociale, là, bien, si tu as de l'acceptabilité sociale, assure-toi que la population où on va chercher ces ressources-là en profite plus que les autres. Et, tu sais, je te donne un exemple. On parlait du gaz naturel, là. Si une municipalité décide qu'elle avait un puits de gaz naturel dans sa municipalité, bien, il faudrait que l'argent reste là. Puis avec cet argent-là, bien, s'ils sont capables de construire un aréna ou de moderniser l'aréna qu'ils ont déjà, bien, la communauté va voir un bénéfice réel. Puis ça, je donne un exemple de l'aréna. Ça peut être une bibliothèque, ça peut être refaire paver des routes ou paver des rangs qui ne le sont pas encore. Il y a toutes sortes de possibilités, là. Mais ils décideront dans la municipalité qu'est-ce qu'ils font avec. Mais je pense que c'est une façon, les redevances, c'est une façon aussi de montrer comment ça peut être payant d'exploiter nos ressources, y compris pour les communautés locales. Parce que là, au Québec, là, on a le sentiment inverse. On a le sentiment qu'on peut dire non à toute forme d'exploration et d'exploitation d'hydrocarbures. On peut importer tout de l'étranger, mais on profite quand même des bénéfices des hydrocarbures, de l'exploitation des hydrocarbures en Alberta, en recevant 13 milliards de dollars en paiement de péréquation puis de transfert à tous les ans. Fait qu'on peut dire, on se permet de dire c'est sale, puis nous autres, on le fait pas, mais on reçoit même l'argent des redevances d'une certaine façon de ceux et celles qui ont le courage d'exploiter leurs ressources. Fait que, il faut briser cette chaîne-là puis s'assurer que les gens font le lien. Tu veux exploiter tes ressources, tu vas être récompensé. Tu veux pas exploiter tes ressources, mais tu vas payer pour. Je veux dire, c'est le B.A.-ba de l'affaire.
Dans les dernières années, Éric Duhaime, du temps où tu étais à la radio, tu as sûrement entendu parler de ça. On parlait des paradis fiscaux dans les autres
Oui.
pays. Si les paradis fiscaux dans les autres pays existent, c'est qu'il y a des pays où c'est un enfer fiscal. Je perçois le Canada ainsi que le Québec comme étant un enfer fiscal. Comment on fait pour attirer des investissements extérieur, si ce n'est que de toujours payer, de donner de l'argent comme à Nordvolt. Hey, venez chez nous, on est tellement un bel endroit, on va vous donner 1 milliard de dollars, venez chez nous, venez chez nous. Moi, ça, je suis tanné. Mais comment on pourrait être attirant pour les entreprises extérieures quand on est un enfer fiscal. T'sais, est-ce que vous avez l'intention, si un jour le Parti conservateur du Québec prend le pouvoir, d'améliorer cette fiscalité-là qui nous pourrit la vie? Là?
C'est de valeur que je ne savais pas que tu allais me poser cette question-là, parce que je t'aurais sorti les chiffres exacts, parce que je les ai donnés à la Chambre de commerce de Montréal la semaine passée. Au Québec, là, on est les plus généreux du continent au niveau des subventions aux entreprises.
Okay? Exact.
Puis ça, là, ça coûte une tonne d'argent. Là. Juste sous la CAQ, juste le Fonds de développement économique, là, on a pompé là, 8 milliards dans le dernier mandat là-dedans. Okay? Donc, c'est des milliards de dollars qu'on pompe là-dedans. Parallèlement à ça, si tu l'as mentionné, le Canada est un enfer fiscal, puis le Québec, c'est l'enfer de l'enfer. C'est-à-dire qu'on est encore pire que les autres provinces. Okay? Donc, on a un taux beaucoup plus élevé. Si on éliminait les subventions aux entreprises, puis si on les ramenait en baisse d'impôts pour les entreprises, on passerait du pire au meilleur en termes de ce qu'on charge aux entreprises comme impôt provincial. Donc, je pense que c'est le genre de truc qu'il faut faire. C'est pour ça qu'on propose d'éliminer les subventions aux entreprises puis de réduire considérablement l'impôt des sociétés. Ce n'est pas le rôle du gouvernement de choisir qui est un gagnant puis qui est un perdant dans le domaine des affaires. Le gouvernement est là pour s'assurer que les entreprises peuvent concurrencer, que nos infrastructures sont douettes puis sont en bon ordre puis que tout le monde y a accès, puis que les lois du marché fassent leur travail, puis que les plus ingénieux, les plus créatifs, les plus travaillants, les plus productifs, bien, ils réussissent, puis les moins bons, bien, qu'ils fassent remplacer par les meilleurs. C'est ça la loi du marché dans une économie libre. Et c'est ce que le Parti conservateur va faire. Puis, il faut réduire l'impôt des entreprises, oui, des sociétés, mais aussi et surtout l'impôt des travailleurs. Parce que plus tu augmentes l'impôt des travailleurs aussi, ça ne règle pas le problème parce que les entreprises sont obligées de payer plus leurs employés parce qu'il leur en reste moins dans leur poche à la fin de la semaine. Donc, ça, c'est une autre charge aussi que l'entreprise paye. Fait que c'est pour ça qu'on dit, par exemple, abolir la taxe carbone. Écoute, la taxe carbone, hier, j'étais au Saguenay, puis j'étais avec des producteurs forestiers, puis eux autres, là, le Québec, là, on n'est plus, vous le savez, là, on n'est plus compétitif dans le domaine, dans l'industrie du bois. Là. Juste la taxe carbone, l'écart entre le Québec et l'Ontario, OK, c'est à peu près 15$ du mètre cube. Là. Je parle comme les gars, m'ont expliqué ça dans le jargon de l'industrie du bois, là. Mais retenez qu'ils payent 15$ de plus là, du mètre cube de bois. Puis sur ça, il y a 3$ que c'est de la taxe carbone. Fait que juste parce qu'en Ontario, ils ne payent pas de taxe carbone, puis nous autres, on paye de la taxe carbone, juste ça, là, tu viens de faire que quand tu vends un mètre cube de bois au Québec, il est 3$ plus cher qu'en Ontario. Fait que si le gars, il fait faillite parce que le gars a 3$ de moins, il vend en Ontario, c'est pas parce que le gars dans l'industrie du bois, il est moins productif au Québec, puis c'est un pas bon, puis il ne sait pas administrer. Là. C'est parce que son gouvernement, il taxe trop, puis il le met en désavantage, puis il fait fermer par rapport à son concurrent d'Ontario. C'est ça que ça a comme impact trop taxé. Puis on est en train au Québec de tuer le monde avec des taxes. Puis on est en train de tuer notre économie. Puis ça se traduit à un autre niveau. Quand tu regardes la création d'emplois au Québec ces dernières années, c'est le gouvernement qui crée de l'emploi. Le secteur privé n'en crée pratiquement plus. Et ça, c'est pas un bon signe, là, parce que les emplois dans le secteur public, vous comprenez que c'est nous autres qu'il faut qu'ils les payent.
Oui, puis il y a le fonds de pension qui vient avec ça, effectivement. Éric Duhem,
il va falloir payer pour ça.
Éric Duhem, il nous reste quelques minutes à l'émission, mais je dois faire une courte pause. Tu me permets de faire la pause?
Go!
Parfait. Je vous rappelle qu'on a le plaisir de passer un 60 minutes en compagnie d'Éric Duhem, chef du Parti conservateur du Québec. On revient tout de suite après.
Marceau, le soir. Avant même le podcast, il y avait Marceau le soir. Du lundi au jeudi, 18h, Marceau parle avec du monde. Du monde quand même assez intéressant.
Oui, bien sûr.
Des politiciens, des acteurs de l'actualité, des experts, des avocats, des musiciens, des professionnels. Et même des inconnus qui ont quelque chose à dire. Mais avant tout, des humains, des émotions, des histoires. Marceau le soir, à Boulevard.
102-1.
Ce segment d'émission présenté par Lévis Subaru qui est maintenant situé au 5085 rue Christophe Colomb à Lévis. Lévis Subaru, c'est la place pour votre nouvelle voiture.
Ne manquez pas le Festivière de Lévis du 25 au 28 juin au Quai Paquette. Au rendez-vous, une ambiance de fou avec
Matt Lang, Valère, un hommage aux cowboys fringants
et plus de diversité dans votre verre avec microbrasserie, vignoble, distillerie et plus encore.
Procurez-vous vos billets au infofestibière.com. Le Festibière de Lévis, une présentation pas mutuelle en collaboration avec Ville de Lévis.
Boulevard 102.1 et le Festibière pour un été qui goûte les vacances.
Ce soir, les Capitales sont en action au Stade Canac. Du baseball spectaculaire, une foule en feu et une ambiance incomparable. Billets au capitaldequebec.com.
Les nouveaux F-150 2026 vous attendent chez Lévis Ford. Des dizaines de camions en stock et des offres qui frappent fort. Jusqu'à 7 000 $ de rabais ou du 0% d'intérêt sur certains modèles. Passez-nous voir dès aujourd'hui. Lévis Ford, les forts de Lévis.
Nouveau logis, nouveau matelas. Matelas Dauphin facilite votre changement de matelas en vous offrant toute une vente. Obtenez jusqu'à 40 % de rabais sur nos matelas de grande qualité, plus taxes payées. Matelas Alcove ultra confortable, garantie 15 ans, format double, en spécial à 599 $, taxes payées. Livraison gratuite et rapide. Profitez de la vente déménagement dans tous les matelas Dauphin. Matelas Dauphin, une entreprise 100 % québécoise.
Transformez votre journée en jour de casino. Jouez au jackpot, jeux de table en direct et plus. Découvrez les machines à sous les plus populaires comme Book of Dead et Immortal Romance et jouez à la roulette, au blackjack et à bien d'autres à Casino Days. Ouvert à tous les joueurs 18 ans et plus, ce site vous permet de vous amuser gratuitement. Veuillez jouer de manière responsable.
Vous êtes électricien. Détenez une licence C. La raffinerie Jean Gaulin de Lévis recrute. Le 15 juillet en soirée, venez découvrir le poste de technicien en raffinage. Un rôle unique qui combine électricité et opération au cœur d'un environnement industriel dynamique. Rencontrez nos équipes, explorez nos installations et voyez concrètement à quoi pourrait ressembler votre avenir chez Valero. Une expérience en industrie est un atout, mais votre motivation à apprendre compte tout autant. Réservez votre place dès maintenant en écrivant à courrier@commercialvalero.com.
Vieux frigo, congélo, climatiseur, ils ont l'air inoffensifs. Pourtant, leurs gaz peuvent être nocifs s'ils sont mal recyclés. Pardon. Certains gaz sont plus dommageables que d'autres. Go Recycle, recycle vos vieux appareils réfrigérants.
Bon, OK. Ça filme. Salut mes besties! Êtes-vous prêtes? On se fait un nouveau unboxing Mercado.
Ben voyons donc! Ils m'ont mis l'annonceur dans la boîte!
Hey, hey, salut! Voici vos offres.
Deux entrées journalières d'une valeur de 102 $ pour 51 $ chez Aquapark à Juin et une entrée pour deux personnes d'une valeur de 84 $ à 42 $ chez Défi Évasion.
OK, les filles, littéralement, je capote vraiment en ce moment. Merci, Mercado.
Mercado.fm. Des offres à vous faire littéralement capoter.
On pense pas que c'est le bon temps pour changer d'auto. Vraiment pas. La vie coûte cher, faut savoir bien dépenser. Mais admettons que vous voulez changer de voiture. Tous les constructeurs auront un bon véhicule à vous offrir. Mais si vous en voulez un qui est mieux, l'Impreza 2026 est offerte à partir de 95 $ par semaine, zéro comptant. Et c'est disponible dans n'importe quelle concession Subaru. Mais rendu là, là aussi, on peut trouver mieux. Option Subaru, exactement pareil comme ailleurs, mais mieux.
Ta meilleure option, c'est Option Subaru!
Un beau gazon, ça commence par un plan fait pour vous. Chez Weedman, entretien de pelouse, chaque programme est personnalisé pour votre terrain.
Pour une pelouse dense, verte et en santé.
Et pour les nouveaux clients, premier service à 50 % de rabais. Profitez-en dès maintenant.
J'ai une question qui me travaille. Est-ce que je suis payé si mon employeur me demande d'arriver avant mon corps de travail?
Oui. Tout temps passé au travail, à la demande de votre employeur, doit être payé. Les normes du travail, pour les questions qui vous travaillent. Un message de la CNESST.
Avant de passer au garage, n'oubliez pas de passer chez Pièces d'Auto Extra. On dit que les pièces sont jusqu'à deux fois moins chères qu'ailleurs. Manquez pas ça. Pièces d'Auto Extra, Saint-Émile, Amel et Beauport. Piècesautoextra.com.
Équipez vos aventures de plein air chez Sail. Économisez jusqu'à 25 % sur l'équipement de camping et de plein air, ainsi que sur les vêtements, les chaussures et bien plus encore. Sail, votre destination plein air 100 % québécoise.
La plus grosse randonnée de gravel bike débarque dans Portneuf. La 14e édition des 100 B7 dans la spectaculaire Vallée Bras-du-Nord à Saint-Raymond. Trois parcours, 25, 60, 100 km. Zéro chrono, 100 % plaisir, 11 juillet. Inscris-toi au 100b7.com.
Acheter un bon système de chauffage ou climatisation, ça peut vite devenir compliqué. Choisir le bon modèle, comparer les prix, comprendre les subventions. Ouf! Hey, chez Enviro-Confort, on vous rend ça plus simple et on va jusqu'à vous faire vivre une vraie expérience pour l'achat de votre thermopompe. On vous conseille, on trouve le meilleur équipement pour votre maison, on s'occupe de l'installation et même de vous montrer comment ça marche. Bref, vous vous occupez de rien, sauf d'être bien chez vous. EnviroConfort, le confort sans le moindre effort.
Salut, c'est PA. Dans ton auto, tu te fais dépasser par des scooters, par des vélos, des tracteurs à gazon, un traîneau à chien. Ben, c'est le temps de changer.
Ce mois-ci, chez Beauport Nissan et Sainte-Foy Nissan, changez pour le Kicks. En location sur 60 mois pour l'équivalent de 88 $ par semaine et 0 $ d'acompte. Mettez du Kicks dans votre été avec Sainte-Foy Nissan et Beauport Nissan. Valeur au détail de 30 076 $. Des conditions s'appliquent.
Boulevard! L'application Boulevard. Dans une poche près de chez vous. Poche de jeans. Poche de short. Pis même ta poche d'hockey. Appelez, textez, votez, réécoutez. L'app Boulevard 102.1. C'est plus que du rock. Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir. Le soir. Le soir.
Éric Duhaime, le chef du Parti conservateur du Québec, passe un 60 minutes avec nous ce soir. Merci beaucoup de t'être libéré, Éric. Je sais que tu te lèves vers les alentours de 4h, 4h30 du matin et que tu te couches à 22h, 23h, des fois à minuit le soir. Donc, d'avoir un 60 minutes avec toi, je suis très impressionné. Peut-être qu'un jour, tu pourras dormir un peu plus. Du moins, on te le souhaite.
Comment je te le souhaite à toi aussi, parce que toi, tu te réveilles à 3h, c'est pire que moi.
Ouais, comment vous choisissez vos sujets que vous allez aborder pendant la semaine? Des fois, vous vous prononcez sur des enjeux d'actualité. Y a-t-il du calcul politique là-dedans?
Ben, c'est sûr qu'on essaye toujours de taper